Nous poursuivons ce soir une petite série de trois paraboles de Jésus qui sont tirées de l'évangile de Matthieu. Et je vous propose d'examiner ensemble deux paraboles qui sont extrêmement brèves. La parabole du trésor caché et la parabole des perles, ou de la perle rare. Et je vous invite à lire avec moi. Le texte est tellement bref que je l'ai simplement affiché, mais vous pouvez le suivre, bien sûr, si vous le souhaitez également, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 46. C'est donc Jésus qui parle à ses disciples et qui dit ceci. « Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. » Ces deux paraboles très courtes ont été racontées dans le même contexte. Elles sont guidées par la même idée principale, vous l'aurez sans doute remarqué. Mais il y a aussi des différences entre elles. Ces différences, elles sont intéressantes, elles sont instructives, je pense, pour bien comprendre ce que Jésus a voulu enseigner par elles concernant le royaume de Dieu. Et à elles deux, elles nous donnent une idée un peu plus complète de ce royaume. Ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Rappelons à ce sujet, lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, c'est l'un des sujets centraux de son enseignement, Jésus utilise des paraboles, des histoires illustrées, tirées de la vie quotidienne, pour donner un aperçu de ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume, Jésus le dévoile comme une réalité à la fois grandiose et mystérieuse, l'irruption inattendue de la puissance de Dieu dans la réalité humaine. Ce royaume, on le voit au fil des paraboles, au fil des enseignements de Jésus, c'est une nouvelle relation avec Dieu. C'est une réalité, et ça nous a été dit déjà plus tôt, qui sera visible aux yeux de tous un jour, mais qui pour l'instant se vit dans le cadre de la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Les paraboles du trésor caché et de la perle sont toutes deux axées sur l'idée de la découverte du royaume. Une découverte qui change la vie et qui exige un changement de vie. Et on va examiner deux idées fortes qu'on retrouve dans les deux paraboles. Une découverte qui émerveille. Ça devait venir plus tard, mais c'est pas grave. Bon. Une découverte qui émerveille et une rupture qui s'impose. Je fais encore des progrès en PowerPoint. Une découverte qui émerveille, donc, tout d'abord. Il y a plusieurs petites surprises dans la première parabole. Cette histoire nous présente un homme, on ne sait pas qui, un homme, qui se trouve dans un champ qui n'est pas le sien, on ne sait pas pourquoi, peu importe. Il trouve un trésor caché. Alors là encore, qui a caché ce trésor et pourquoi? Le texte ne nous le précise pas et ce n'est pas le but du texte de répondre à ce genre de questions. C'est une image. Ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est que cet homme a trouvé un trésor auquel il ne s'attendait pas du tout. Et un trésor d'ailleurs qu'il ne cherchait même pas. Il n'était pas parti pour une chasse au trésor, il trouve ce trésor simplement. Comment est-ce qu'il réagit face à cette découverte? Est-ce qu'il en parle à quelqu'un? Est-ce qu'il emporte le trésor pour l'amener chez lui? Non, il prend conscience de la valeur inestimable du trésor et dans un premier temps, nous dit le texte, il cache le trésor. Alors le trésor était déjà caché. Faut-il comprendre que l'homme l'a caché encore mieux ou simplement qu'il l'a remis dans sa cachette? On ne sait pas encore une fois. Mais toujours est-il qu'il laisse ce trésor caché et il se précipite pour vendre tous ses biens pour acheter le champ entier, le champ dans lequel se trouve ce trésor. Alors comment expliquer une réaction aussi radicale? La seule explication possible, c'est que cet homme s'est trouvé dans ce champ face à face avec quelque chose qui changeait tout pour lui. Devant ce trésor, il a compris que rien ne pouvait être comme avant. Alors qu'il semble s'être trouvé là par hasard, eh bien cet homme est amené à changer de vie parce qu'il a trouvé un bien d'une valeur inimaginable. Et la première idée forte que Jésus veut souligner ici, c'est celle d'un émerveillement. C'est assez émouvant. Jésus nous dit que l'homme qui a trouvé le trésor, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Peut-être que vous pouvez vous identifier à lorsqu'on fait une découverte complètement inattendue, qu'il y a tout d'un coup une belle surprise qui vient dans notre quotidien. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Et on note que cet homme n'a pas fait de savants calculs. Il n'a pas étudié les perspectives du marché agricole pour les années à venir. Il a trouvé une réalité qui l'a émerveillé et il ne s'est pas posé de questions. Il était prêt à tout, pour tout la saisir. Par cette image extrêmement courte et simple, Jésus indique à ceux qui l'écoutent que cette réalité dont il leur parle, le royaume de Dieu, eh bien, il est impensable de la laisser passer, comme si de rien n'était. Et peut-être que nous devons prendre un instant pour méditer ce que Jésus nous dit ici. Il nous présente un homme qui, quand il a compris qu'il était face à ce qu'il y a de plus précieux, eh bien, il n'a pas tergiversé. Pourtant, la découverte l'a pris par surprise, il ne s'y attendait pas, mais dans sa joie, il n'a pas résisté au choc de cette bonne nouvelle. Il a compris que ce trésor devait être saisi sans attendre. La seconde parabole, celle des perles, elle communique le même émerveillement. Mais là où l'homme dans le champ semble avoir trouvé le trésor complètement par hasard, par surprise, eh bien le marchand de la parabole des perles, il était à la recherche, lui, de belles perles. Donc il cherchait déjà des perles. Alors à première lecture, cette parabole, elle est peut-être un peu moins saisissante. Parce qu'on a un homme qui cherche et qui, semble-t-il, trouve précisément ce qu'il cherchait. Il trouve une belle perle, une perle de très grande valeur. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit que c'est pas une découverte comme une autre. Ce marchand, là aussi, comme l'homme de la première parabole, a renoncé à tous ses biens. Ça veut dire qu'il a renoncé à toutes les perles dont il était déjà le propriétaire pour saisir celle qui était de grande valeur. Et on remarque que le marchand cherchait des perles, sans doute dans la nature, dans des crustacés, c'est comme ça qu'on trouve les perles à la base. Mais c'est finalement lui qui a vendu tout ce qu'il avait par ailleurs pour s'acheter cette perle unique. Il me semble que Jésus raconte ici deux histoires qui illustrent chacune à sa façon le royaume de Dieu. Et dans les deux cas, on voit que la conclusion de la parabole, c'est la même. On a un homme qui renonce à tous ses biens pour saisir un bien infiniment supérieur. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, que dans la première parabole, on a un homme qui ne cherche pas. Et dans la seconde parabole, on a un homme qui cherche. Et les deux trouvent. Et on peut se demander, est-ce que Jésus a voulu, avec ces deux images différentes, illustrer deux manières de saisir le royaume de Dieu? Certains ne cherchent pas Dieu, en tout cas ne sont pas conscients de le chercher, mais ils tombent dessus en quelque sorte. D'autres cherchaient et trouvaient peut-être dans leur recherche certaines belles choses, mais lorsqu'ils ont rencontré la perle unique dont la valeur est incomparable, inestimable, ben ils ont compris que cette perle, on ne pouvait pas simplement la ranger à côté des autres. Ça ne pouvait pas être simplement ajouté à leur trouvaille. Elle revendique une place unique, elle ne tolère pas de rival. Peut-être qu'il y en a parmi nous ce soir qui sont tombés sur le royaume de Dieu alors qu'ils ne le cherchaient même pas. Je me souviens d'une jeune femme qui racontait son témoignage il y a un certain nombre d'années, c'était pas dans cette église, par les questions qui lui étaient posées. Donc il y avait une sorte d'interview, hein, puisqu'elle a raconté son témoignage, comment elle était devenue chrétienne. Et je me suis rendu compte par les questions qu'on lui posait qu'on cherchait un peu à lui faire dire ce qu'on entend souvent dans les témoignages, c'est-à-dire j'ai cherché partout, mais rien ne remplissait le vide de mon existence. Et voilà, je cherchais, il y avait toujours ce grand vide en moi, et tout d'un coup j'ai trouvé. Et parfois ça se passe comme ça, et souvent d'ailleurs ça se passe comme ça. Mais pour cette jeune femme, les choses ne s'étaient pas passées de cette façon-là. Elle n'était pas spécialement malheureuse. Elle vivait une vie relativement insouciante. Mais un jour, par la lecture de la Bible, elle s'est retrouvée face à Jésus-Christ, tel qu'il se révèle dans sa parole. Et elle a compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et elle a pris de plein fouet le choc entre sa vie insouciante et l'irruption de la vérité de Dieu dans ce confortable tissu de mensonges selon lequel Dieu n'existe pas, et quand bien même il existe, on n'a rien à savoir de lui. Et elle a capitulé devant Dieu, non pas parce qu'elle était consciente d'un grand manque en elle, il y avait un manque, bien sûr, mais elle n'en était pas consciente. Elle a capitulé devant Dieu parce qu'elle a compris qui est Jésus, et elle a compris que ce serait une folie de continuer à passer à côté de Jésus, de continuer à faire comme si de rien n'était, alors que le Créateur de l'univers l'appelait à la connaître, à le connaître. Pour d'autres, au contraire, la découverte de l'Évangile, c'est l'aboutissement d'une recherche inlassable, jusqu'à ce qu'enfin, ils comprennent ce qu'ils cherchaient partout ailleurs. Donc on a ces deux cas de figure. Et ces deux manières de venir à l'Évangile aboutissent à la même conclusion, c'est la valeur suprême du royaume de Dieu. Et pour nous qui entendons ces paraboles aujourd'hui, et notamment pour ceux parmi nous ce soir qui sont chrétiens de longue date, depuis longtemps, nous devons nous demander si nous sommes encore émerveillés, si nous nous laissons émerveiller par le royaume de Dieu. Est-ce que nous nous laissons heurter de plein fouet par le choc de la bonne nouvelle ? Un choc qui devrait être sans cesse renouvelé, parce que justement il n'entre pas dans le petit cadre confortable que nous voulons donner à notre vie. Cette bonne nouvelle de Jésus, elle ne peut pas être intégrée à notre vie comme notre métier, nos hobbies, notre famille. Elle revendique toute la place et elle redéfinit notre existence. Et nous sommes invités par Jésus à être des hommes et des femmes qui, dans leur joie d'avoir découvert ce qu'il y a de plus précieux, ne considèrent plus rien comme nous appartenant réellement, et on est prêt à ne plus rien revendiquer, et s'il le faut, à renoncer à tout, parce que ce qui nous importe, c'est de saisir le royaume de Dieu, de saisir la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu, c'est une découverte qui émerveille, mais c'est aussi une découverte qui marque un tournant décisif dans notre vie. Et si on a bien compris quel est ce royaume de Dieu, on comprendra aussi qu'une fois qu'on a accueilli dans sa vie ce royaume, ben, plus rien ne sera comme avant. Donc j'en arrive à mon deuxième point qui en fait découle très naturellement du premier, une rupture qui s'impose. Alors je reviens à la parabole du trésor caché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans un sens c'est un petit peu un filou, cet homme dont il est question. Parce qu'un bon citoyen, qu'est-ce qu'il aurait fait en découvrant un trésor caché ? Il serait allé, je pense, à la préfecture de police de Galilée. Il aurait fait la queue pendant 5 heures, il aurait rempli quelques formulaires, il aurait fait une déclaration, on lui aurait donné un rendez-vous pour 2 mois plus tard. Ou au minimum, il aurait informé le propriétaire du champ de sa trouvaille. Mais là, notre homme, il dit rien, il recache le trésor et il va acheter le champ. Et a priori, le texte laisse entendre qu'il n'informe pas le propriétaire de l'existence du trésor qui aurait fait monter la valeur du champ. Mais Jésus ne nous donne pas de leçons immobilières ici, foncières. Hein, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Il veut attirer notre attention sur les derniers mots du verset 44. Encore une fois, c'est une image. Faut pas se dire qu'il faut imiter ce type d'acquisition. Il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Parce qu'il a compris que la valeur du trésor était inestimable, notre homme a été prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour acheter le champ. Et c'est important de bien comprendre. L'idée n'est pas que ses biens étaient suffisants pour acheter le trésor. C'est pas le trésor qu'il a acheté. Mais l'homme a été prêt à tout donner pour acheter le champ, c'est-à-dire pour s'assurer que le trésor serait à lui. Pour s'en saisir. Jésus a voulu mettre l'accent sur la nécessité d'un acte radical de foi pour saisir le royaume. Jésus veut que nous prenions acte, que nous remarquions le geste extrême consenti par un homme qui a été prêt à tout vendre, à se défaire de ses biens actuels et qui a été prêt à faire preuve d'une certaine ruse et d'une détermination impressionnante pour saisir ce trésor. Et c'est une idée qui revient assez souvent dans les évangiles. Le royaume de Dieu est présenté comme quelque chose qu'il faut absolument saisir, qu'il ne faudrait surtout pas laisser passer. Et c'est une réalité si précieuse que, bah, il faut être prêt à tout pour s'en emparer, pour la saisir. Non pas, bien sûr, à faire du mal à d'autres personnes, mais à faire preuve d'audace pour saisir ce royaume. On a plein d'exemples de cela parmi les évangiles, non seulement dans des paraboles, mais dans des épisodes aussi de la vie réelle dont Jésus, qui nous sont racontés. Par exemple, lorsqu'un jeune homme riche vient demander à Jésus comment avoir la vie éternelle, et Jésus va mettre le doigt sur sa préoccupation première, la préoccupation première de ce jeune homme, c'est-à-dire ses richesses. Et donc il va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Jésus met vraiment le doigt là où ça fait mal pour cet homme. Il ne dit pas, attention, il ne dit pas que le jeune homme pourrait accéder de lui-même à la sainteté en renonçant aux richesses, mais il met en évidence le fait que ces richesses, qui sont en réalité la préoccupation première du jeune homme, elles sont un obstacle qui l'empêche de saisir la nouvelle vie que Dieu lui offre. On a un autre épisode étonnant dans les évangiles aussi, où Jésus fait face à un homme qui lui dit « Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, et ensuite je te suivrai. » Alors il est probable que, par cela, il voulait dire « Laisse mon père est âgé, laisse-moi attendre que mon père décède pour ensuite que je te rejoigne. » Et Jésus lui dit « Non, non, c'est maintenant. Viens et suis-moi. » Et Jésus a voulu montrer par là que lorsque le royaume de Dieu se présente à nous, lorsqu'il fait irruption, c'est un bien d'une telle valeur que quelque part tout s'arrête et il faut absolument saisir ce royaume. Alors face à cette parabole, nous devons nous poser cette question, quelles sont les choses dont Jésus nous appelle à nous défaire pour nous assurer de saisir pleinement le royaume de Dieu, de nous laisser transformer par cette vie nouvelle avec Dieu? Alors on pourrait citer une multitude d'exemples et je vais en prendre juste un. Un qui me semble assez pertinent dans notre contexte parisien et dans notre civilisation en général. On vit plus que jamais dans un monde où l'image qu'on donne de soi a une telle importance qu'on en viendrait presque à oublier qui on est vraiment. Et on attache une importance immense à notre petit prestige personnel. Alors que celui-ci soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit social, peut-être juste auprès de nos cercles d'amis, notre cercle d'amis, peu importe. Notre image de marque, notre petit prestige personnel. Mais le royaume de Dieu dont nous parle Jésus est un royaume dont le roi, Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le Seigneur légitime de tout l'univers, il a été prêt à devenir un homme. Il a été prêt même à vivre dans des conditions modestes, puis à subir un rejet constant lorsqu'il enseignait, et enfin l'infamie d'une exécution publique. La pire peine réservé aux pires criminels, la crucifixion. Et la lettre aux Hébreux, une des lettres du Nouveau Testament, nous dit que Jésus a méprisé la honte de la croix. Une expression très forte. Il a méprisé la honte. Parce que ce qui le préoccupait, ce n'était pas de donner de lui-même une image qui plairait aux hommes. Ce qui importait, c'était le royaume de Dieu, cette réconciliation offerte par le Créateur aux hommes. Et on peut se demander, est-ce qu'il est normal que nous soyons tant préoccupés de notre prestige personnel alors que le Fils de Dieu, lui, qui mérite tout le prestige de l'univers, il a été prêt à être rejeté, insulté et humilié par les hommes au nom du royaume de Dieu. En fait, la seule réputation qui devrait nous importer, c'est la réputation de Jésus-Christ. Et nous avons un rôle à jouer pour la réputation de Jésus-Christ. Mais parce que nous accordons plus d'importance à notre image personnelle, bien souvent, qu'à l'image que nous donnons de Jésus, eh bien, nous risquons d'avoir honte de la bonne nouvelle, honte de notre espérance en Jésus-Christ. Et là, je m'adresse à ceux qui sont chrétiens. Est-ce que, par exemple, si possible, on préfère pas que nos collègues, nos amis sachent que nous sommes engagés dans la foi chrétienne? Ou bien, si on en parle, c'est vraiment en minimisant à l'extrême? Avons-nous peur pour l'image que les autres auront de nous si nous leur parlons explicitement de l'évangile et de ce que cela change pour notre vie? Je sais qu'il y a un temps pour tout et le temps n'est pas toujours propice pour un témoignage explicite, mais de là à dire qu'il n'y en a jamais de temps propice, c'est pas la même chose. Et avec nos frères et sœurs dans la foi, est-ce que nous avons peur de nous rendre vulnérables, de parler honnêtement de nos difficultés, de nos luttes? Peut-être parce qu'on cherche quand même à préserver un peu une image de super chrétien. Est-ce que nous estimons le royaume de Dieu tellement précieux que nous serons prêts à nous rendre vulnérables, à renoncer aux faux-semblants, à reconnaître nos limites et à attirer l'attention non pas sur nous-mêmes, mais celui que nous appelons notre Seigneur. Et Seigneur, ça veut dire en fait propriétaire de notre vie, Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est pas un concept qu'on comprend et qui apporte un éclairage sympathique à notre vie. La bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même qui intervient avec fracas dans notre existence, avec le sang, la sueur et les larmes du Seigneur crucifié, pour nous arracher d'un monde qui a oublié son Créateur et qui court à sa perte. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui accepte de venir dans notre réalité et de souffrir, et de mourir à notre place sur la croix pour subir la peine que méritait notre rébellion contre Dieu. Ce texte est intéressant pour une autre raison aussi. On entend parfois dire que être chrétien, ça implique de sacrifier certaines choses pour Dieu. Mais il me semble, à la lumière de ces deux paraboles, que c'est se tromper sur la nature de la bonne nouvelle, que de penser comme ça. C'est Christ qui s'est sacrifié pour nous, et non pas l'inverse. Et si nous renonçons effectivement à certaines choses, parfois c'est difficile, ou bien à certaines revendications pour le suivre et lui obéir, c'est pas par sacrifice. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Mais c'est très intéressé. Nous voulons ce qu'il y a de plus précieux, nous voulons le trésor caché, la perle rare, ce qui seul peut nous combler, c'est-à-dire la relation avec Dieu lui-même. Et on voit que dans ces deux paraboles, les deux hommes n'ont pas agi par devoir. Ils n'ont pas agi par sacrifice, mais au contraire, ils se sont saisis d'un bien infiniment précieux. Et être chrétien, c'est faire une découverte si stupéfiante, si magnifique, que le reste de la vie, même dans les moments de souffrance, eh bien le reste de la vie sera pour toujours placé sous le signe de cette découverte magnifique. Et si quelqu'un ce soir n'a pas encore trouvé le trésor dans le champ, ou la perle rare. Pour toute autre question d'ailleurs, je vous encourage à venir me voir ou à m'écrire pour en parler, ou bien vous pouvez aller voir Anne-Sophie également, qui sera heureuse de parler de ces choses avec vous. Il serait terrible de passer à côté de la plus magnifique des découvertes et de poursuivre son chemin comme si de rien n'était. Prions. Merci pour ces deux paraboles, Seigneur, qui nous rappellent qui tu es, qui nous rappellent la valeur infinie de cette nouvelle relation avec toi que tu nous offres. Et donne-nous de ne pas passer à côté de cette offre. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens, donne-nous d'être frappés à nouveau par le fait que cette découverte a tout changé pour nous et que nous avons en toi le bien le plus précieux. Alors dès que nous sommes tentés de nous éloigner, de chercher ailleurs notre espérance, rappelle-nous, Seigneur, que c'est en toi et en toi seul que se trouve le sens de notre vie et notre véritable espérance. Amen.